Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio au Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des solutions aux questions que vous vous posez régulièrement. Le thème du forum de ce soir porte sur les préparatifs de la campagne agricole 2021, enjeux et perspectives. Au Niger, la campagne agricole s'annonce progressivement avec quelques pluies dans certaines parties du territoire national, ayant permis à certains agriculteurs de faire les semis. Toutes les attentions et tous les espoirs sont tournés vers la saison hivernale qui se pointe à l'horizon. L'agriculture étant l'une des activités phares au Niger. L'agriculture représente 46% du produit intérieur brut entre 2005 et 2008, d'après des chiffres de l'Institut national de la statistique de 2011, et elle emploie environ 80% de la population active selon la même source. La campagne agricole, tout comme celle des années précédentes, intervient dans un contexte caractérisé par les effets des changements climatiques et l'insécurité grandissante au Sahel. Quel est donc le niveau de préparation de cette campagne agricole 2021? Quels sont les enjeux et les défis de cette campagne agricole? Quelles sont les mesures appropriées pour mieux préparer la campagne et espérer en tirer profit? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ma'azou Lawali, président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et l'élevage au Niger Ordaïen. Bonsoir Ma'azou.
Bonsoir madame.
Ibrahim Amadou, collectif Raya Karkara. Bonsoir monsieur Ibrahim.
Bonsoir madame.
Et Moussa Ali Niali de l'association Moribène. Bonsoir monsieur Niali.
Bonsoir madame.
Nous avons donc invité la direction de l'agriculture à travers une correspondance. Malheureusement, la direction n'est pas présente donc à ce forum. Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Pour commencer, je propose d'écouter un extrait du point de presse animé par le directeur général de la direction de la météorologie relativement aux prévisions météorologiques de la saison pluvieuse de cette année. Katiel Lawangabtia, que je propose d'écouter.
Cette année, il est prévu quand même, comme l'année dernière, une prévision excédentaire sur la majeure partie du pays. Ça veut dire que si ça s'est produit, il y aura des précipitations plus que la moindre. Donc, pratiquement, avec une tendance normale. Pour le démarrage de la saison, vous avez la légende ici qui part de mai jusqu'à juillet. La saison s'installe d'abord au sud-ouest et après, ça va aller vers le nord. Et ça suit le déplacement, n'est-ce pas, du front tropical. Nous avons également des séquences sèches normales, en général, sur l'ensemble du pays en fin de saison. Mais en début de saison, nous attendons à des séquences sèches plus longues, à tendance normale. Après, donc, la pluie risque de se concentrer vers les fin juillet, août et éventuellement début septembre. Donc, on peut justement s'attendre à des inondations. Je ne dirais pas que c'est la même ampleur que l'année passée, mais on peut avoir un peu le schéma de l'année passée en termes donc, de fortes pluies qui vont tomber. Maintenant, pour la fin de saison, ça fait jusqu'à 30 septembre, même à la fin du mois d'août, il y a des zones où la pluie s'arrête.
Vous venez là donc de suivre le directeur général de la direction de la météorologie relativement aux prévisions météorologiques de la saison pluvieuse cette année. Vos réactions, je commence par Ibrahim Amadou, collectif Raya Karkara.
Donc, merci au studio Kalangou pour l'organisation de ce forum assez intéressant pour le monde rural. Par rapport à la question qui est posée et relativement à l'éclairage scientifique qui vient d'être donné par la direction de la météorologie. Je pense que globalement, c'est une campagne à tendance excédentaire du point de vue pluviométrique. Mais pour moi, en tant qu'acteur de la société civile au niveau des organisations paysannes, nous pensons que c'est une campagne qui risquerait d'être une campagne très difficile pour les producteurs. À plus d'un titre, parce que à ce jour, le nombre de villages ayant effectivement fait le semis, et on a encore des écarts. Malheureusement, la direction de l'agriculture n'est pas là pour nous éclairer davantage. Mais ce que nous observons sur le terrain, nous, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de villages qui sont en début d'installation des cultures. Or, le bulletin, la météo prévoit des séquences sèches et une forte concentration des pluies dans les périodes de juillet à août, avec une prévision météorologique de fin de campagne vers septembre. Cela a des conséquences. Les conséquences, c'est que les pluies risqueront d'arriver au moment où les cultures n'ont pas atteint un niveau suffisant pour être bien solide pour supporter ces pluies. Cela suppose que si les paysans ne s'organisent pas davantage, ça voudra dire qu'on sera dans une campagne où elle ne sera pas totalement bonne. Et quant aux séquences sèches, on le sait, ces séquences sèches ont des conséquences sur les rendements des cultures. Donc, globalement, nous, en tout cas, au niveau du collectif, ce que nous sommes en train de voir, le scénario d'une campagne de moyenne à mauvaise cette année. Et à cela, on ajoute aussi la question de l'insécurité dans certaines zones agricoles. Donc, la question sécuritaire fait en sorte que les gens n'ont pas bien préparé les exploitations. Il n'y a pas eu une bonne préparation et tout cela aura comme conséquence, en tout cas si on y prend garde, ça aura comme conséquence quand même d'une situation d'insécurité alimentaire moyenne à modérée qui pourrait être envisagée.
Monsieur Moussa Alignali de l'association Moribène, vous venez là de suivre le point de presse animé par le directeur général de la direction de la météorologie. Qu'est-ce que vous en dites?
Merci madame. Bonsoir chers auditeurs. La Fédération Moribène, à travers ma voix, remercie le studio Kalangou de l'avoir invité pour donner son point de vue par rapport à cette problématique. Donc, quand on écoute ce que le directeur Gaptia vient de dire, ce que ça mérite d'être porté à large échelle, parce que ce n'est pas tout le monde qui détient ces informations, parce que de ces informations-là, beaucoup de leçons peuvent être tirées, quoi. Et quand on revient donc au niveau de la fédération, fort des expériences passées, on a pris donc des mesures pour un peu et mitiger cette situation éventuelle, quoi. En mettant à la disposition donc des producteurs et en les encourageant à aller vers l'agroécologie, les pratiques agroécologiques, qui, du point de vue, donc, utilisent des ressources et des intrants qui s'adaptent à ce changement climatique. Il y a des variétés qui, avec ces pluviométries, peuvent arriver à terme et puis avoir des bons rendements, quitte à ce que les producteurs se prennent à temps et puis adaptent ces technologies, quoi. Donc, il y a tout un paquet de technologies. Je me réjouis de la présence de M. Ibrahim qui est ici, avec lequel on a beaucoup travaillé au niveau donc, de la plateforme Raya Karkara, où beaucoup a été diffusé, reste à adapter et puis à mettre à échelle. J'en appelle aux producteurs de tirer les conséquences et puis de se préparer dès maintenant. Parce que la réussite de la campagne dépend. Comme dit un adage, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, sachant bien qu'on a plus ou moins donc, les pluies qui vont s'arrêter vers le mois de septembre, tout au plus. Donc, il faut que les gens adaptent donc, des techniques. Il y a des semences, au niveau de la fédération, par exemple, il y a des semences qu'on a avec l'aide de la recherche, des semences paysannes qui s'adaptent et avec un peu de travail de sélection qui s'adapte à ce milieu-là. Donc, l'appel que je lance à l'issue donc, de ce message du directeur, c'est que les gens n'ont qu'à aller vers les variétés précoces qui, avec les pluies espérées, peuvent arriver à maturité afin d'éviter donc, ce problème donc, d'insécurité auquel le Niger est fréquemment confronté, quoi.
Maaz Lawali, président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage au Niger. Est-ce que vous avez donc quelque chose à ajouter?
Merci madame. Nous remercions la radio Kalangou qui nous a invités. Tout ce que nous disons, vous savez, sur l'ensemble du pays, il y a 12 384 villages qui sont agricoles. Maintenant, comme vient de le dire M. Ibrahim, sur les 12 384 villages, il n'y a même pas 3000 qui ont commencé à faire des semis présentement, ce que nous sommes en train de... Et donc, c'est un peu tard. Avec ces changements climatiques, nous préconisons, vous savez, il y a des techniques d'adaptation au changement climatique qui consistent à faire des... parce que maintenant, c'est un problème. Les cultures irriguées, là, c'est ça que l'État doit intensifier. Les aménagements hydro-agricoles, c'est l'État qui les fait. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un privé qui fait ça. On doit, n'est-ce pas, intensifier. Nous avons des centres de recherche qui sont l'INERA, l'Agrimet, qui ont des semences de qualité, comme vient de dire mon ami. Donc, mais quand même, Ce sont ces semences qu'on doit mettre pour que nous puissions avoir un rendement productif. Parce qu'avec ces changements climatiques, on ne peut pas espérer beaucoup. Oui, si nous voyons ce que les paysans sont en train de faire, il y a beaucoup de terres qui sont délaissées en jachère suite à le terrorisme. Il y a beaucoup d'insécurité dans les zones rurales, comme vous le savez. Et maintenant, même la paille qu'on n'en trouve pas, ce sont les arbres qui sont là qu'on est en train d'abattre pour que les animaux puissent paître. Mais malheureusement, ce que j'ai dit, l'État doit accompagner la population. Nous avons des superficies cultivables qu'on doit aménager. Et nous avons des semences de qualité. L'INERA, à travers la Direction générale de l'agriculture, doit, n'est-ce pas, essayer d'approcher ces paysans pour qu'elle leur donne, parce que ce sont des semences, si on les met en 44 jours, 46 jours, on va avoir le rendement productif. Mais si, avec ces changements climatiques, on laisse les choses à la portée du paysan, lui, il ne peut pas faire. Donc c'est pour cela que nous demandons à l'État, n'est-ce pas, de s'impliquer davantage, parce que vous savez, c'est très difficile de couvrir tout, mais quand même, là, les différentes localités, par exemple, nous avons 12 384 villages agricoles. Mm-hmm. Ces villages doivent être aidés afin qu'ils produisent en quantité suffisante. Parce que maintenant, ce qu'ils ont comme semences-là, si on met dans différentes localités, on va avoir des rendements plus importants. Mm-hmm. Mais l'État doit accompagner ces paysans. C'est ça la priorité. Mm-hmm. Et en d'autres termes aussi, l'engrais. Mm-hmm. L'engrais, vraiment, c'est venu un peu tardivement. Et on a tout stocké ici à Niamey. Mm-hmm. Donc, j'ai vu ça dans leur magasin de Combo. On a amené là-bas les magasins de la Caïma. Mais tout ça, là, ça ne peut pas aider les paysans. Quelque chose qui est à Niamey, alors que le paysan, il est dans une localité éloignée de Niamey. Donc, vous voyez l'acheminement et tout ça. L'État doit vraiment essayer, n'est-ce pas, avant l'arrivée de la campagne, au sixième mois ou bien cinquième mois, envoyer ces quantités dans les différentes entités afin que ces gens puissent être proches de ces semences. Bon, maintenant, d'autres termes, c'est les paysans qui doivent vraiment, une fois de plus, nous remercions votre radio qui essaie de toucher toutes les localités. Maintenant, c'est que nous, en tant que paysans, devons faire, parce que tout doit se faire avec les paysans et l'État aussi, l'État qui les accompagne. Comme elle, c'est elle qui a les moyens, Elle doit mettre les moyens, n'est-ce pas, à leur disposition. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est un grand retard. Il y a une réorganisation au niveau du ministère de l'Agriculture, mais jusqu'à présent, ça tarde à venir. Vous savez, la campagne, elle vient de s'installer. Maintenant, il n'y a même pas 3000 villages qui ont eu les premières pluies.
Et ces villages concernent quelle région?
Bon, c'est une diversité, puisqu'il y a Tilaberi, Dosso, Tawa, Maradi, Zender. Mm-hmm. Bon, donc tout ça là, donc c'est ça, ils ont eu quelques pluies, mais quand même, il y a une sécheresse aussi, puisque les premières pluies, il y a d'autres qui ont eu ça 23 jours passés. Mm-hmm. Maintenant, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'autres pluies. Bon, donc c'est un problème. Mm-hmm. C'est pour cela que nous avons demandé à l'État, elle n'a qu'à leur donner ces semences de qualité. C'est une aide de la FAO. Qui sont stockés dans les magasins. Ces semences-là, s'ils arrivent à être envoyés dans les différentes localités, dans les différentes entités, j'espère que vraiment, comme elles sont de qualité, ça va donner un rendement. Et donc, les saisons sèches-là, ou bien choses-là, elles peuvent être adaptées à ces saisons-là. C'est parce que même s'il n'y a pas de pluie, ces semences de qualité-là, elles peuvent résister. C'est pour cela que nous demandons à l'État qui est le pourvoyeur de ces trucs-là, donc n'ont qu'à appuyer les paysans. Parce que tant que dans les différentes localités, on n'arrive pas à avoir un rendement productif, c'est un problème. Oui, nous avons à peu près 21 millions d'habitants dans les pays. Mais malheureusement, combien de localités sont en train de produire? C'est 12 384 villages qui sont agricoles. Et même dans ces villages-là, il y a des terres cultivables qui ont été annexées. Et ils savent, parce qu'avec les problèmes des couloirs de passage et consorts qu'on a annexés, si vous prenez le couloir de Matamay, Hein, c'est plus de 22 000 hectares qui ont été annexés. On a vendu aux gens et vous voyez, c'est des difficultés.
Ibrahim Mamadou, collectif Raya Kalkara. Et y a-t-il des localités qui sont à un stade avancé?
Globalement, je pense que la campagne elle est beaucoup plus homogène compte tenu des séquences sèches qui ont été observées. Et en termes de localités qui sont les plus avancées, c'est traditionnellement les régions de Dosso, Gaya, et un peu Maradi, le sud de Zinder. Mais quand nous prenons certaines localités, comme dans la tradition Tilabéri, je pense que l'effectivité des semis ont été effectuées au courant de la semaine passée. La plupart des villages sont en train de faire leurs premiers semis. Et c'est cela d'ailleurs qui nous inquiète. Parce que quelle qu'en soit la variété qui est semée, si c'est à 1000, le minimum, c'est 90 jours. Or, des 1000 de 90 jours, aujourd'hui, nous sommes le 20 combien ? Nous sommes à fin juin. Donc, ça veut dire que si les pluies ne vont pas jusqu'en fin septembre, il faut envisager des solutions alternatives. Donc, et c'est cela qui nous inquiète. Et à notre avis, la campagne agricole, ça se prépare. Il faut anticiper. Tout ce qui a comme stock d'intrants, en tout cas tout ce qui a comme appui substantiel aux communautés rurales, je pense qu'il faut leur donner ça 2 ou 3 mois avant l'installation effective de la campagne. Surtout que pour le cas du Niger, nous connaissons plus ou moins à travers l'excellent travail que la météo fait, les prévisions météorologiques, on connaît à peu près à quelle date exactement les pluies vont arriver. Et je pense que gouverner, c'est anticiper, nous devons anticiper pour mettre tout cela à la disposition de ça. Mais je suis optimiste. Si nous allons dans le sens de mes collègues, il faut anticiper en sensibilisant davantage les producteurs vers une diversification culturelle. Nous ne devrons plus miser sur le mil ou le sorgho actuellement au Niger. Il faut miser vers des cultures de court cycle. Je pense que des cultures comme les cultures négligées, n'est-ce pas, comme le sésame, comme l'arachide, le niébé, l'oseille, des cultures à cycle très court et qui sont souvent négligées par les producteurs pourront améliorer notre situation sur cette campagne agricole. Et je pense que c'est sur ça que nous, en tant que société civile, et vous, en tant que médias aussi, vous faites partie de la société civile, nous devons encourager les populations. L'heure n'est plus à la culture, à la monoculture du mil. Il faut arriver dans les champs à adopter des pratiques durables. Et ces pratiques durables, comme Moussa Niali l'a dit, c'est l'agroécologie. Et l'agroécologie qui permet à ce paysan de mettre plus d'une culture dans son exploitation. Une association culturelle, 4 ou 5 cultures, de telle sorte que les risques soient minimisés. L'heure sera aussi d'anticiper sur la prochaine campagne irriguée. Parce que du moment où on connaît plus ou moins le visage de cette campagne, on peut anticiper sur la petite irrigation. Ça veut dire qu'on peut miser sur les décrues, les cultures de décrues. En septembre, octobre déjà, l'État peut mettre les moyens à la disposition des producteurs pour les encourager à faire les décrues. Et ça va nous permettre de combler les gaps en termes de sécurité alimentaire. Et à mon avis, il n'y a pas de doute. Nous ne devons plus compter sur l'extérieur pour assurer notre souveraineté alimentaire. Mes collègues l'ont dit, la souveraineté alimentaire, c'est une base. La souveraineté alimentaire, c'est une vocation et ça devait être un acte, c'est un acte constitutionnel. Donc il y a des articles qui sont consacrés dans la Constitution dédiés à la souveraineté alimentaire. Nous devons tout faire pour en assurer cette souveraineté et sécurité alimentaire au Niger.
Moussa Niali, des agriculteurs sont en retard donc, cette année. Que faut-il faire donc, pour ces agriculteurs?
Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'adapter. Parce que qui dit changement dit adaptation. Maintenant, il y a des variétés. Par exemple, si dans la diversification que vient de parler Ibrahim, il y a des variétés de mil et de niébé qui vous font 45 jours. Par exemple, si vous prenez l'IT 90, à 45 jours, 50 jours maximum, vous allez commencer à manger. Le mil shakti, il y a plusieurs variétés de cela. Et puis, il ne faut pas s'arrêter à une seule variété. Ce qui nous blesse la plupart du temps, c'est je suis habitué à telle chose, je suis habitué. Même si cela change ou bien cela ne répond plus à vos besoins, vous continuez toujours à faire la même chose. Donc, il faut un changement de mentalité. Et comme dit un adage, quand vous êtes malade, le premier docteur, c'est vous-même parce que c'est vous qui allez identifier où vous faites mal et avant donc de chercher à ceux qu'on vous prête secours. Quoi. Les paysans, aujourd'hui, ne doivent plus compter sur l'extérieur, ne doivent plus compter sur l'État même, parce que l'État ne répond plus. Il faut que les gens s'organisent, créent des dynamiques solides. Il faut s'associer. Il faut que les gens travaillent en synergie. Telle personne a une expérience, une expertise. Il faut que les gens se coude et se viennent en aide et puis essaient donc de créer. Si aujourd'hui les paysans ils s'organisent, ils deviennent des structures fortes, ils peuvent influencer donc sur le politique. Mais si les gens, chacun va dans son sens, le politique fera ce qu'il veut.
Voilà. Et la deuxième partie du forum est consacrée donc sur les défis et enjeux de l'agriculture. Monsieur Yamazou Lawali, président de l'ORDAEN, quels sont les principaux enjeux de cette campagne de l'agriculture?
Merci madame. Une fois de plus, je remercie la radio Kalangou. Pour cette campagne agricole, cette campagne agricole, nous voyons vraiment qu'il y a un retard, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et maintenant, l'État qui est censé faire des commandes d'engrais a pu les stocker ici à Niamey. Vous voyez, il n'y a pas donc de stockage dans les magasins à l'intérieur. C'est un problème. Mm-hmm. Donc les choses sont venues un peu tardivement. Mm-hmm. Mais malheureusement, ils ont pu stocker ça ici à Niamey. Mm-hmm. Et maintenant, nous sommes en pleine campagne. Quand est-ce qu'ils vont envoyer ça à l'intérieur du pays? Puisque vous savez, il y a 12 384 villages agricoles. Ces villages, ils attendent de l'État toujours. Nous sommes en train d'attendre de l'État. Mm-hmm. Les semences de qualité, nous en avons. La FAO avait donné ça à l'État. On doit vraiment, ces semences-là qui sont de qualité, on doit les amener là où on fait l'agriculture. Malheureusement, l'État ne les fait pas. Et c'est un problème. Mm-hmm. C'est un problème. Les paysans, ils ne connaissent rien. Il faut l'encadrer. Il faut lui faire comprendre. Voilà. De toute façon, il y a des problèmes. Ils ont vendu toutes les terres agricoles. Il y a beaucoup de ces gens qui ont payé ces terres agricoles. Maintenant, on ne pense pas si vraiment on peut avoir un rendement productif important. Et les changements climatiques ont fait en sorte que, vous voyez même, il y a beaucoup de cultures qui sont parties, n'est-ce pas, avec les inondations. Et c'est des problèmes. Tout ça, là, l'État doit doit appuyer la population afin que nous puissions vraiment avoir un rendement qui puisse permettre à la population de subvenir à ses besoins, mmh. parce que pour combler aussi, il faut intensifier les cultures irriguées, comme il l'a dit. Mmh. C'est en novembre que nous faisons le lancement, en février, nous montrons la production. Mais ce n'est pas toutes les ONG qui interviennent en milieu rural ou bien qui ont des terres cultivables.
Ibrahim Amadou, collectif Raya Karkara, quels sont les principaux enjeux de cette campagne agricole?
Les enjeux, c'est que le risque de déficit alimentaire est plausible. Et le deuxième enjeu concerne aussi les questions d'inondation qui sont déjà annoncées par la météo. Ça veut dire que nous devons prendre les dispositions pour éviter l'installation des cultures dans les zones inondables. Donc ça, c'est un enjeu de taille parce que qui a l'information peut mieux anticiper sur certaines choses. Et le troisième enjeu que je vois, c'est aussi la question du renforcement des capacités du monde rural. Mes collègues l'ont dit, il faut que le monde rural commence à compter de lui-même. Il ne faut plus attendre l'aide. L'État a beaucoup de préoccupations à l'heure actuelle. Les préoccupations sécuritaires, les préoccupations alimentaires, les préoccupations sanitaires, etc. etc. Je pense qu'il est grand temps que les producteurs, à travers des collectifs d'organisation, les ONG, les associations, que les gens s'organisent davantage et se forment aussi sur des nouvelles pratiques. Aujourd'hui, l'agroécologie est une solution miracle, hein? Ça résout tous les problèmes d'accès aux intrants, de retard, d'autonomisation, d'accès à la connaissance. Et nous pensons qu'à travers, quand les producteurs vont s'organiser, nous, par exemple, au niveau du collectif, nous pouvons nous engager à former les associations. On ne peut pas former tous les producteurs du Niger, mais si les gens sont organisés autour des associations, on peut les outiller des pratiques et des techniques qui puissent contribuer à leur autonomisation pour supplier éventuellement à des éventuels retards de l'État. Aujourd'hui, un producteur n'a pas besoin d'un soutien pour produire des pesticides. Il n'a pas besoin du soutien de l'État pour produire des engrais organiques. Il n'a pas besoin du soutien de l'État pour sélectionner ses semences. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être résolues à travers leur renforcement des capacités. Les structures étatiques sont là. On a des excellents cadres qui peuvent former les organisations des producteurs. Et je pense que c'est cette révolution que le studio Kalangou, que je profite pour remercier, doit inculquer dans le monde rural. Il faut que le monde rural se réveille. L'heure n'est plus à l'attentisme, s'il vous plaît. Tous les pays ont des problèmes et quelqu'un ne peut pas aider un autre pays tant que lui-même il a des problèmes. Et je pense que ça, ce sont des enjeux de taille. Nous devons changer nos mentalités et ça doit être un changement global. Moi, je ne suis pas content quand on dit qu'on doit attendre de l'aide de X ou de Y pour démarrer une campagne agricole.
Niali, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels l'agriculture et les agriculteurs font face?
Donc, le premier défi, c'est le problème donc, d'organisation. Il faut que les gens s'organisent. Il faut que les gens se renforcent en capacité, comme avait dit Ibrahim. Le retour, bien, la solution, c'est que c'est les pratiques agroécologiques. Avec les déchets ou bien les ordures, avant, pourquoi les champs produisaient? Parce qu'on dit que la terre, tu nourris la terre, elle te nourrit. Avant, il est difficile de voir un producteur qui va au champ sans amener quelque chose d'ordure ou bien de fumure organique dans le champ. Aujourd'hui, il y a des paysans, le jour où ils récoltent, il faut la pluie pour aller visiter même le champ. Or, il faut que les mentalités changent. Il faut que les gens s'organisent. Il faut que les gens comptent sur eux-mêmes. Il faut que les gens se forment. Et puis, il faut que les gens sachent où ils vont et puis pourquoi ils font ça. Parce que le danger, c'est que beaucoup ne connaissent pas, c'est qu'il est facile donc de détruire un pays, même à travers l'agriculture. Parce que si les pays savent que le Niger compte sur eux pour démarrer la campagne, mais il suffit de ne pas appuyer pendant l'installation de la campagne. Et tant que il y a la famine, donc le Niger va toujours tendre la main. Mais si les gens se ressaisissent pour compter sur eux-mêmes, la production donc des fumures organiques, la production donc de compost et même les semences, il y a des expertises, il y a des compétences. Aujourd'hui, nous-mêmes, au niveau donc des producteurs, on peut produire nous-mêmes nos semences qui sont adaptées à notre milieu. Donc, il faut que les gens comptent sur eux-mêmes, les gens se renforcent, les gens se retrouvent dans des organisations, dans des structures pour essayer donc de définir des lignes de conduite et puis travailler ensemble. Tout à l'heure, on avait parlé donc du problème donc des engrais chimiques. C'est vrai, cette année, il y a le problème d'engrais qui s'est posé. À tort ou à raison, on peut dire que c'est lié donc à cette pandémie donc de coronavirus qui a entraîné la fermeture des frontières. Mais c'est très bien que on peut faire des pesticides bio avec ce que nous avons. Il y a des techniques qui permettent donc de fabriquer donc de l'engrais naturel avec nos déchets, les composts, avec les biodigesteurs et ce qui s'ensuit. Le problème de semences, on a des multiplicateurs de semences qui sont reconnus et qui sont suivis, appuyés par l'État. Notre problème, c'est que tout ce qui ne vient pas de l'extérieur, on considère que c'est de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de Nigériens qui produisent de la semence de qualité et qui sont dans les catalogues. Mais les gens préfèrent toujours attendre et puis ils voient que c'est cher. J'en appelle ici que les semences sont issues donc de la recherche et de la sueur donc des producteurs. C'est leur source de revenus. Parce qu'une des philosophies au niveau donc de notre fédération, c'est de faire en sorte que, de la même façon que vous et moi, on se lève le matin pour aller au bureau chercher notre pain, que l'agriculture devient donc le bureau, le champ devient donc le bureau du producteur. Que à travers donc son champ, il arrive donc à se nourrir, à se vêtir, à subvenir à tous ses besoins.
Oui, Moussa, aujourd'hui, est-ce que les semences pour la campagne agricole 2021 sont disponibles dans l'ensemble du pays?
Dans l'ensemble du pays, oui. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les gens se réunissent autour donc des structures. Au niveau donc... pour appuyer l'importance de l'organisation, pour que les paysans se retrouvent dans des structures, je peux dire qu'au niveau donc, de la fédération, nous, ce que nous avons fait, c'est que bien avant donc, la campagne, on a des unions qui sont des multiplicateurs donc, de semences. Et avec l'INRA, en collaboration avec l'INRA et l'ICRISAT, nous produisons donc nos propres semences. Donc, qui sont adaptés des semences paysannes. Quoi. Et donc, c'est ces semences-là, donc, à travers les boutiques d'intrants et toute une chaîne donc, de distribution que nous mettons donc, à disposition. Nos producteurs vendent et ils produisent et on revend donc, au sein du réseau et même donc, pour les autres producteurs qui veulent. Il y a les variétés donc, de mil et les variétés donc, de niébé qui sont produites et qui sont mises à la disposition. Donc, de telles dynamiques sont à multiplier au niveau donc des autres. De sorte que si l'État n'a pas amené, il faut que toi aussi tu te demandes où est-ce que je peux trouver, comment je peux trouver. À force de chercher, on va trouver. Au niveau donc de la fédération, nous avons des stocks de semences qui sont produits par nos producteurs et qui sont mis sur le marché. Quoi. Mais du point de vue donc de l'appui de l'État ou bien des producteurs eux-mêmes, il n'y a pas. Parce que l'année passée, il y a eu des inondations. Les cultures n'ont pas arrivé à cycle, ce qui veut dire que donc il n'y a pas eu de maturité, donc il n'y a pas eu de semences. Il faut donc une main extérieure. Donc et cette main extérieure là, il faut que les gens se l'approprient. À travers votre micro, je profite pour que l'ensemble des producteurs, qu'au niveau donc de la Fédération Moriba, nous disposons des quantités de semences qui sont prêtes à être mises à disposition et des semences qui sont issues donc de l'agroécologie qui s'adaptent mieux au terroir.
Maazla Wali, dans votre première intervention, vous avez un peu évoqué la situation sécuritaire que traversent le Niger et les pays de la sous-région, qui a causé beaucoup de réfugiés et de déplacés internes. Est-ce que cela peut être un obstacle pour la campagne agricole?
Effectivement, ça peut affecter, n'est-ce pas, la campagne, parce que leur présence, vous voyez, s'il y a l'insécurité, les gens ne peuvent pas aller au champ. Et comme ils viennent de le dire, les semences de qualité, ce n'est pas toutes les localités qui en disposent, ou bien ce n'est pas toutes les localités qui ont des banques d'intrants agricoles, quoi. Donc, il faut nécessairement qu'ils s'organisent, parce que si vous voyez les fédérations, c'est vrai, il faut une organisation, mais quand même jusqu'à présent, nos paysans ne sont pas censés s'organiser dans les différentes régions. Les 12 384 villages agricoles, si vous partez, qu'est-ce qu'on leur donne? Rien. Tout est stocké ici dans des magasins. Est-ce que ça peut les aider? Maintenant, il y a les problèmes d'insécurité. Vous venez de parler, il y a aussi la COVID qui est venue affecter tout, n'est-ce pas? Et il y a des déplacements des gens partout. Les gens ne sont pas en insécurité. Donc, tout ça, là, l'État doit tenir compte de ça. On doit les aider, on doit les appuyer. Même pour manger, c'est un problème. Pas pour s'aimer même. Pour manger même, on ne leur a rien donné. On attend toujours de l'État. Nous sommes là en train d'attendre toujours. Ceux qui ont des terres cultivables, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, s'il vous plaît. La plupart, ils ont vendu leurs terres, ils sont partis en exode. Et c'est des problèmes. Il faut qu'on s'organise. Aménager de grandes superficies. L'État doit accompagner. Il y a la Direction générale de l'agriculture. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel appui elle donne aux agriculteurs? Tout à l'heure, vous avez parlé, l'agriculture concerne 80% de la population. Ça couvre 46% du PIB. Mais tout de même, si on n'appuie pas cette activité, est-ce qu'on peut avoir des rendements qui puissent suffire à 21 millions de personnes? Ça ne peut pas aller. Si vous prenez, par exemple, l'importation du riz, on dépense 225 milliards de francs CFA à chaque année. Les trois années passées, chaque année, c'est 225, plus de 225 milliards. C'est beaucoup. Si on met une grande partie de cet argent pour aménager de grandes superficies, on peut avoir des rendements. L'État, elle doit avoir une politique agricole commune qui doit concerner toutes les régions. Maintenant, présentement, il n'y a pas une région qui ne produit pas. Il n'y a pas. Oui, la culture du 10 000, même à Iférouane, on fait dans la région d'Agadez. À Iférouane, il y a une partie que les gens font des trucs, des cultures 10 000. Mais il faut les aider, de leur donner des semences de qualité. Il y a les blés, les maïs, les sorgots, tout ça, là, il faut développer ça. Nous avons des eaux souterraines. Avec ces changements climatiques, il faut les exorer, faire des aménagements hydro-agricoles pour qu'on ait des rendements productifs. Parce que la production, là, tant qu'on n'arrive pas à faire ça ou bien à accroître les rendements ici, même dans les pays, nous avons des institutions comme l'INERA, comme ils viennent de le dire. C'est eux seuls qui sont, n'est-ce pas, en collaboration avec l'INERA. Et les autres, il y a 12 384 villages agricoles. Il faut tenir compte de ces gens-là qui sont dans ces entités et les aider. Si l'État arrive à les aider, parce que personne ne peut les aider si ce n'est pas l'État. C'est l'État qui sollicite l'aide extérieure pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, accompagner les agriculteurs. Mais si on vient, on stocke dans des magasins ou bien ça vient tardivement, on stocke ça. On n'arrive pas à toucher les paysans. Mais qui va? Qui a les moyens pour payer des semences? Personne n'a les moyens puisque les semences sont chères. On sait qu'elles sont de qualité, mais elles sont chères. Le paysan n'a pas. L'année dernière, lorsqu'il y a eu des inondations, il y a eu 205 tonnes de riz qui sont parties. Mais ces gens-là, jusqu'à présent, ça fait trois productions qu'on n'arrive pas à... Ils sont en retard. Ils n'ont rien. Si vous partez dans les rizières, vous allez voir tout est sec. Il y a eu le terrorisme, il y a eu ceci, cela, il y a des déplacements des gens partout. Mais les gens ne sont pas là. Mais c'est eux qui ont les terres cultivables. S'ils ne produisent pas, mais on va toujours tendre la main. Donc l'État... qui a un ministère de l'agriculture, doit avoir une politique agricole qui va concerner toutes les régions. Si c'est pour produire du blé, on va produire. Si c'est les sésames, si c'est les mil, si c'est... Donc, il faut accompagner les gens. Techniquement, nous avons des agents, des cadres qui sont là. Mais nous ne voyons pas leurs compétences parce que sur le terrain, ils n'accompagnent personne. Ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font. Tu es forestier, on ne te voit pas sur le terrain, tu es dans les bureaux. Tu es chose là comme chef service agricole, tu es dans les bureaux. Mais si tu n'es pas sur le terrain, qui va faire ça? Qui va accompagner les paysans? Donc vraiment, avec ces changements climatiques, il faut des techniques d'adaptation plus performantes. On va venir parler, mais si sur le terrain, s'il n'y a pas les concret. On ne peut pas avoir les rendements produits. Donc, vraiment, nous remercions une fois de plus votre radio qui arrive, n'est-ce pas, à toucher tous les points sensibles. Parce que cette affaire-là, ça concerne tout le monde. Ça concerne la population en premier lieu et l'État qui accompagne. Parce que même l'année dernière, ils ont demandé pour accompagner, n'est-ce pas, le déficit là. Ils ont eu 21 milliards pour le truc d'inondation là. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas réparti. Ces gens qui ont perdu leur bien, qui va leur donner? Donc voilà des problèmes qui sont réels, mais quand même que l'État n'arrive pas à créer des conditions pour réparer ça. Donc voilà.
Voilà. C'est... Le temps est contre nous. Nous allons rapidement passer au troisième point de ce forum qui porte sur les mesures d'accompagnement des agriculteurs. Ibrahim Amadou, collectif Raya à Karkara, contribution de votre association en termes d'appui aux agriculteurs pour que cette campagne se déroule dans de bonnes conditions.
Merci. Et donc, je rappelle que nous, notre collectif, c'est un collectif d'ONG et d'associations paysannes. La plateforme paysanne, Moriben qui est ici présente, et d'ONG internationales qui sont acquis à une thématique qu'on appelle l'agroécologie. Donc, je me permets au nom de notre collectif de dire à peu près ce que nos organisations font au niveau du monde rural. Donc, la première chose, c'est d'abord la question en lien avec le changement de comportement. Je pense que au sein de notre collectif, à travers nos différents réseaux, nous avons déjà anticipé pour informer les producteurs sur les tendances actuelles de la saison pluvieuse. En mai déjà, le bulletin prévisionnel, nous l'avons diffusé à travers les radios partenaires, etc., pour préparer les gens. Donc, dans nos différentes zones d'intervention, les paysans sont déjà informés sur les tendances. Et donc, ça a permis de faire des anticipations dans les zones. Les paysans sont déjà au courant que c'est une campagne qui risquerait d'être timide à mauvaise. Donc, en conséquence, cette sensibilisation apportée aujourd'hui, en tout cas dans les zones où nous intervenons, les gens ne sont plus attachés à une seule culture, mais ils vont dans le sens de diversifier pour réduire les risques d'insécurité alimentaire. Et notre collectif fait beaucoup aussi d'activités de formation et de renforcement des capacités. En tout cas, là où nous sommes présents, les paysans, ils ne sentent pas l'absence de ces intrants. Parce qu'on les a déjà préparés à autoproduire leurs intrants. Tout ce qui concerne les pratiques de production de fertilisants, on a une douzaine de pratiques pour la fertilisation, sur lesquels nous avons formé les paysans, du compostage au bostol, au bokashi, etc., etc. Autant de pratiques qui leur permettent d'être autonomes. Au cas où l'aide de l'État ne venait pas à point nommé, les producteurs ont des alternatives pour faire la fertilisation nécessaire. Tout comme dans le domaine aussi de la production des pesticides, à ce niveau aussi, nous avons renforcé la capacité de nos organisations pour autoproduire les pesticides sur la base d'une douzaine de plantes qui sont naturellement disponibles dans les différentes localités. Et donc, c'est notre part de responsabilité. Nous, on s'est dit, on n'a pas les moyens de l'État, on n'a pas les moyens des gros partenaires, mais nous avons nos moyens de changer le comportement pour pouvoir amener notre contribution à l'édifice. On ne se plaint pas, l'État fait de son mieux. Il faut le dire. Mais dans le secteur agricole, du moment où c'est le secteur le plus vital pour le pays, l'État doit encore faire. Parce que notre autonomie en dépend, notre souveraineté en dépend. Qui gagne l'agriculture domine le monde. Quelqu'un l'a dit ici dans ce studio qu'on peut nous affamer. Le pays peut être fatalement touché. Ça peut être plus crucial que certaines maladies. Et en conséquence, l'appel que je lance aux producteurs d'abord, aux paysans, c'est de compter sur soi-même. Le Nigérien doit apprendre à compter sur soi-même avant d'attendre l'aide de quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est aussi cette diversité que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, au Niger, dans un seul champ, tu peux produire 4, 5, 7 espèces, n'est-ce pas, cultures différentes. Mais pourquoi, bon sang, on va s'en tenir à une seule espèce qui va nous affamer? Le mil ne peut plus nourrir les Nigériens. Il faudrait que le mil soit un aliment de luxe pour nous. Mais à côté du mil,
à mon avis, il y a des cultures dites orphelines qu'il faut promouvoir au Niger. Moi, je suis en train de voir même certaines cultures qu'on a délaissées, comme le fonion. Il faut les faire revenir. Le fonion n'a pas besoin de 3 mois de campagne. C'est une culture qui a besoin de tout au plus 30-40 jours de pluie. Elle peut produire vraiment des céréales de très bonne qualité.
Ibrahim Amadou, tout à l'heure, vous disiez que l'État fait et Dieu son mieux. Alors, quelles sont les dispositions mises en place par l'État en vue de sécuriser la campagne agricole?
À ma connaissance, en tout cas au niveau des zones d'intervention, oui, ce que moi j'ai vu, il y a quand même le minimum qui est là. Mm-hmm. Ce minimum, c'est le dispositif d'encadrement. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est fortement décentralisé sur le plan agricole. Presque dans chaque commune, vous avez au moins des encadreurs, des répondants de l'État, n'est-ce pas, qui encadrent les producteurs sur les différentes techniques et pratiques. Mm-hmm. L'État, déjà, le fait de payer ces agents qui sont au service des communautés, à mon avis, c'est une contribution. L'autre contribution qui n'est pas de moindre, il faut dire que même le fait d'assurer la sécurité dans certaines zones pour permettre aux producteurs d'aller dans leurs exploitations est une forme de contribution. Et comme je l'ai dit, l'État ne peut pas tout faire. Et c'est à ce niveau que nous, en tant que citoyens, nous devons aussi assurer notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de pouvoir compter sur nous-mêmes, c'est de pouvoir aider l'État à assurer notre sécurité alimentaire.
Voilà, le temps est, et nous sommes presque au terme de cette émission. Mais nous allons rapidement écouter Monsieur Moussa Agnali, la contribution de l'OE, de l'association Moribène en termes d'appui et conseil aux agriculteurs.
Ce que nous avons fait au niveau donc de la fédération, c'est le renforcement de capacité. Mm-hmm. Et c'est la production, comme j'avais dit, donc la production et la mise à disposition donc de ces semences paysannes donc adaptées pour que la fédération compte sur elle-même, quoi. Mmh. Au niveau donc de la, on a trois unions qui produisent, et ce que nous avons donc au niveau de la fédération pour appuyer, même ce que j'avais dit, il faut compter sur soi avant de compter sur l'État. Les stocks que les trois unions ont produit dépassent largement donc les besoins de la fédération en termes donc de semences et même en termes donc de fabrique, de production donc de biofertilisants, mm-hmm, de biopesticides et même dans les pratiques de régénération naturelle assistée au niveau donc du sol, les récupérations de terre, les pratiques de zaï, tout ça là c'est des renforcements de capacité que nous faisons donc au niveau donc de cela. On a un dispositif donc aussi donc sur le terrain des animateurs endogènes qui accompagnent les producteurs. Et tout le sommet de la base de tout ça là, c'est que les producteurs aussi contribuent de leur façon parce qu'ils identifient leurs problèmes. Voilà. Pour essayer donc de les porter à la conscience.
On ne peut pas écouter, nous sommes même allés. Nous allons donc clôturer. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangu sur les préparatifs de la campagne agricole 2021, enjeux et perspectives. Nous étions en compagnie de Maazoula Wali, président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et l'élevage au Niger Ordaïen, Ibrahim Hamadou, collectif Raya Karkara, et Moussa Alignelli de l'association Moribène. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons invité la direction de l'agriculture à travers une correspondance et malheureusement, la direction n'a pas pu participer à ce forum. La présentation était assurée par Fatih et Zachary. La réalisation Mustapha Ayouba et la technique Issa Lawali. Merci, au revoir et le programme continue sur le studio au Kalangu.